cours de philosophie première par le père Philippe à Saint-Jeudard le 23 mars 1988.
Attention, et disons plutôt commencement de l'individuation. Je crois à ça très net. Alors saint Thomas précisera que la quantité est la première disposition de la matière, que la quantité suit proprement la matière, alors que la qualité suit la forme. C'est dans son commentaire de physique. Parmi les autres accidents, la quantité est celui qui est le plus proche, propinquissime, de la substance, de la substance matérielle. C'est pourquoi la figure, qui est la qualité qui concerne la quantité, et ce qui est le plus proche de la forme substantielle. Et c'est par la figura que nous pouvons le mieux saisir la forme substantielle. Alors il affirmera également que le fini et l'infini conviennent à la quantité. Infinitum per se loquendo non est nisi in quantitate. Donc l'infini par lui-même, per se loquendo, en le considérant pour lui-même, n'existe que dans la quantité. Alors, évidemment, vous voyez bien tout ce que ça pose comme petit problème, puisque saint Thomas dira parmi les attributs de Dieu que Dieu est infini. Alors, il y a deux notions d'infini. Une notion négative et une notion privative. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais c'est intéressant. Parce que le saint Thomas, je crois, est le premier qui a fait ça. Autrement dit, la raison d'infini qui convient à la quantité est celle d'un infini privatif. Autrement dit, l'infini qui relève de la quantité est celui qui se tient du côté de la matière. Saint Thomas distingue à ce sujet deux sortes de quantités, la quantitas dimensiva et la quantitas molis, qui est une quantité selon l'extension et ne se trouve que dans les réalités corporelles. Donc la quantité dimensiva ou quantitas molis, qui est la quantité d'extension, et la quantitas virtualis, qui concerne l'intensité. Autrement dit, la perfection d'une nature ou d'une forme. Relevons aussi cette expression curieuse et inhabituelle de saint Thomas, quantitas entitatis, la quantité de l'être. Saint Thomas emploie dans une objection au De Veritate. Mais c'est dans une objection. Donc ce n'est pas de lui. La quantité est prise ici au sein de la quantité virtuelle. Donc l'infini et le fini qualifient proprement la quantité. Mais on va pouvoir transposer la notion d'infini par rapport à l'être, par rapport à Dieu, d'un point de vue négatif. Je dis ça, c'est parce que, de fait, dans notre pensée occidentale, je vous l'ai déjà dit, le point de vue du fini et de l'infini joue un rôle extrêmement important. Je crois que c'est la notion qui a tout fait basculer. Je vais simplement le signaler. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis, parce que c'est important. L'apeiron, c'est l'illimité. Donc, A, privatif. Apeiron, limite. Donc, l'illimité, c'est l'infini. C'est l'infini. Privatif, ne pas avoir de limite. Donc, l'infini privatif. L'apeiron, très vite apparaît dans la philosophie grecque. Les trois premiers philosophes de Milet, Thalès, Anaximandre, Anaximène. Le troisième dit, le second dit. Apeiron, c'est le point de départ de tout. Tout commence par l'apeiron. C'est l'infini, l'abîme, la notion de quelque chose qui n'a pas de limite. Bon. L'apeiron va jouer un rôle important dans la philosophie grecque, et Aristote va ramener l'apeiron, donc l'infini, à la quantité. La quantité implique la limite et implique la non-limite. Pourquoi? Parce que la quantité, c'est le divisible, et le divisible demande d'être divisé. Et quand le divisible est divisé, on met une limite. Vous arrêtez le divisible. Donc, d'une certaine manière, la limite, c'est l'acte du divisible. Hein? Vous voyez bien. Si vous supprimez l'acte du divisible, vous êtes dans l'infini. Donc l'infini est imparfait, puisque c'est la privation des limites. Vous suivez bien le raisonnement. Hein? C'est pour ça que pour Aristote, le premier ne peut pas être infini, puisque l'infini implique une imperfection. C'est très important, ça. C'est une notion qui est... Je crois, hein, personnellement, que l'infini, c'est au plan de notre philosophie occidentale, et sans doute encore plus du côté de l'Orient. Je crois que l'infini, c'est la plaque tournante de toute la philosophie. Très, très curieux. Parce que c'est là où on touche l'alliance de l'intelligence et de l'imagination. Le foulcan. Imaginaire. Foulcan. Les nostalgies. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui. C'est l'infini, vous portez ça en vous, quoi. La vie régulière. Ah, oh, c'est assommant. S'il y avait un peu de foulcan. Vite la promenade, hein, foulcan. Vite, vite, supprimons cette régularité. Et on porte ça en soi, faut bien dire, hein, dans nos nostalgies imaginaires, dans nos nostalgies romantiques. On est très romantique par l'imagination. On n'aime pas les choses régulières. Il n'y a rien de plus fatigant que les choses régulières. Alors que pour Aristote, la détermination, c'est la perfection. Donc comprenons bien ce lien de l'intelligence et de l'imagination. Parce que tout est là. Hein. Nous avons une peine énorme de devenir intelligent. Tandis qu'on n'a aucune peine d'être un être imaginatif. Asseyez-vous dans un fauteuil, et puis fumez. C'est la fumée, vous comprenez? Ça s'en va vers l'infini. C'est détendant, c'est merveilleux. Tandis qu'au contraire, là, c'est vrai, c'est... Il faut bien... La grande ascèse pour nous, c'est de dépasser l'imaginaire. Une fois que vous avez dépassé l'imaginaire, vous avez la stabilité. Et tant que vous êtes dans l'imaginaire, vous n'avez aucune stabilité. Sable mouvant, flux et reflux. C'est difficile de dépasser l'imaginaire dans le monde d'aujourd'hui, parce que tout concourt à nous replonger dans l'imaginaire. Le monde des images. Et on comprend très bien, alors, au plan spirituel, vous comprenez, le démon est le prince de l'imaginaire. C'est pour ça que la plus belle chose, c'est de consacrer son imagination à la Vierge Marie. Et Marie nous fait passer de l'infini à quelque chose d'autre. Il faut beaucoup y penser, ça. Je vous ai dit, il y a un lien entre la quantité et l'imagination. C'est ça l'intérêt de la quantité. Et quand on dépiste le domaine imaginaire dans une vie, ben, on permet à l'esprit d'être libre. Parce que l'imaginaire, c'est une certaine intériorité. C'est le rêve. C'est pas la véritable intériorité, c'est la fausse intériorité. Et la fausse intériorité prétend aller le plus loin possible. Et ça, c'est la Peyronne, l'infini. Donc, pour Aristote, la quantité limitée, c'est la quantité déterminée par l'acte. L'acte vient diviser le divisible. Et quand je supprime l'acte, alors j'ai le divisible. Le divisible peut être divisible à l'infini. Donc, il y a quelque chose d'infini. Et c'est pour ça que pour Aristote, l'infini et le fini caractérisent la quantité. Et saint Thomas reprend ça. Que va faire saint Thomas en théologien? En théologien, saint Thomas est dans la révélation qui parle tout le temps de la science infinie de Dieu. Pas de limite. La puissance infinie de Dieu, pas de limite. L'éternité, pas de limite. L'Écriture ne dit pas que Dieu est infini. Regardez bien. Mais l'Écriture dit qu'il n'y a pas de limite à la science de Dieu, qu'il n'y a pas de limite à la puissance de Dieu. Saint Thomas est le premier théologien, je crois. Je ne le fais pas de façon absolue, mais je crois que saint Thomas est le premier théologien à dire Dieu est infini. Donc, de dire que l'infini est une manière d'exister. La manière d'exister de Dieu, c'est d'être infini. Alors saint Thomas montre qu'il y a deux notions d'infini. Une notion d'infini privatif qui implique une imperfection. Et une notion négative de l'infini qui n'implique pas de privation, qui n'implique pas d'imperfection. Infini, ça veut dire sans limite. Vous voyez? Donc, infini négatif. Qui enlève les limites. Et qui met, par le fait même, la réalité dont on qualifie d'infini, comme première. Donc, cette négation va mettre ce qui est premier. Quand je dis que Dieu est infini, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que l'être de Dieu, l'exister de Dieu, n'est pas reçu. N'est pas reçu. S'il n'est pas reçu, il subsiste en soi. Et c'est pour ça que l'infini est une conséquence directe de la simplicité. Parce que Dieu est saint, il est infini. Parce que Dieu est simple, il est premier. L'apanage du premier, c'est d'être simple. Quand vous n'êtes pas premier, vous n'êtes pas simple, parce que vous suivez un autre. Celui qui suit un autre, il est lui-même, il est relatif à un autre, donc il n'est pas simple. Il louche, parce qu'il suit un autre. Suivre un autre, c'est accepter de ne pas être simple. Tandis que celui qui est premier, il est simple. C'est pour ça que le premier attribut de Dieu, c'est la simplicité. C'est très très beau ça. La simplicité, c'est la pureté. C'est d'être non relatif. Quand vous êtes relatif, vous n'êtes pas simple, que voulez-vous? Vous imitez. Vous acceptez de ne pas être simple. Vous acceptez d'être complexe. Tandis que celui qui est premier, il est simple. Eh bien, celui qui est premier dans l'ordre de l'être, il n'est pas reçu. Donc il est infini. Donc, vous voyez, vous avez une notion d'infini qui devient une perfection, qui écarte toute imperfection, tout aspect relatif, pour manifester la pureté absolue. C'est très curieux, ça, hein? Mais alors, vous voyez, pour saint Thomas, quand je dis que Dieu est infini, il a dit avant que Dieu est simple. Et la simplicité de Dieu montre que Dieu est premier dans l'ordre de l'être. L'apanage du premier, c'est d'être simple. Dieu est simple, Dieu est parfait, Dieu est bon. Et en quatrième position, il est infini. Point d'orgue. Qu'est-ce qui se passe immédiatement après saint Thomas? Don Scott. Premier attribut de Dieu, l'infini. Donc l'infini va passer avant. Ça n'a l'air de rien, mais c'est capital. Quel est le premier attribut de Dieu pour Descartes? Dieu est infini. On va faire donc de l'infini le centre de toute la pensée. Hegel, c'est l'infini. Donc, la plaque tournante, vous voyez, au point de vue de l'histoire de la pensée, c'est toujours la théologie qui commande tout le reste. C'est pour ça que les philosophes ont toujours une rogne contre la théologie. Parce que c'est la théologie qui a commandé toute notre philosophie occidentale. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est comme ça. Notre culture est chrétienne. Et alors, si on veut être vrai, il faut le reconnaître. Si on ne le reconnaît pas, on est en état d'opposition, en état de laïcité. La laïcité, c'est un état d'opposition. Vous voyez, c'est une opposition vis-à-vis d'être chrétien. On ne le veut pas. Et la pensée occidentale, Descartes, de Descartes à Hegel, est une pensée d'opposition aux théologiens. Il faut se libérer des théologiens. Descartes, c'est la libération. C'est la philosophie de la libération. C'est la libération de la théologie. Et la libération de la théologie, vous voyez, c'est de dire que ce qu'il y a de plus secret en nous, c'est l'infini. Plaque tournante, l'infini chez Descartes, l'infini chez Feuerbach. C'est l'infini que nous portons en nous qui permet de dire que Dieu n'existe pas. Tout l'athéisme contemporain repose sur la notion d'infini. Ça, c'est capital. Une fois qu'on a compris ça, on comprend un peu ce que c'est que notre monde occidental. C'est la question de l'infini qui joue ce rôle extraordinaire. Et vous voyez, saint Thomas, c'est très curieux, hein, saint Thomas a permis ça, sans le vouloir. Mais saint Thomas, en disant « Dieu est infini », mais dans la lumière de la simplicité, va mettre l'infini dans une place tout à fait nouvelle. Avant saint Thomas, on dit « Dieu a une science infinie, Dieu a une puissance infinie ». Donc l'infini qualifie une qualité de Dieu, mais ne qualifie pas directement l'être de Dieu. Saint Thomas a fait que l'infini qualifie directement l'exister de Dieu. C'est pour ça qu'il en a fait un attribut qui regarde directement l'exister de Dieu. Et alors, immédiatement après saint Thomas, l'infini devient l'attribut premier. Il faut réfléchir à ça de temps en temps. C'est beau, du reste, une contemplation de l'infini. Ne vous perdez pas trop dans une contemplation de l'infini, parce que la nostalgie de l'infini romantique arrivera très vite. Alors, vous voyez, et ça regarde le domaine de la quantité. L'infini qualifie en premier lieu la quantité. L'infini est né en premier lieu dans l'imaginaire. Vous n'avez pas de concept d'infini, mais vous avez une nostalgie d'infini. Ouais, si vous êtes normal. Vous avez des nostalgies d'infini. Heureusement. Mais vous n'avez pas de concept d'infini. C'est Descartes qui dit qu'on a une idée d'infini. Je n'ai pas d'idée d'infini, c'est absolument impossible. Vous voyez, l'infini attribué à Dieu est un infini négatif. C'est par la négation que j'affirme que Dieu est infini. La négation, c'est quoi? C'est un être de raison. Donc c'est par la négation que je supprime toutes les limites. Une négation absolue qui supprime toutes les limites et qui dit Dieu est infini. La négation, c'est un jugement, ce n'est pas une appréhension. Et on est passé du jugement à l'appréhension pour avoir un concept d'infini. Ça, c'est important quand on parle de la quantité, d'avoir ce domaine de l'infini. C'est très important. Et c'est très important pour comprendre tout le domaine de l'imaginaire. Vous luttez toute la journée contre vos nostalgies du retour au paradis terrestre. Toute la journée, j'en suis sûr. Sans faire votre psychanalyse, je suis sûr que c'est ça qui est le fondement. Et vos tristesses, c'est de voir qu'il y a une douane qui vous empêche d'entrer dans le paradis terrestre. Là, vous êtes triste. Si je pouvais rentrer dans le paradis terrestre, comme ce serait merveilleux. Oui, aux nostalgies, la nostalgie du paradis terrestre. C'est très fondamental en nous. Le réalisme consiste à dépasser l'infini. Mais c'est très difficile pour nos imaginations d'aujourd'hui. Très difficile. De voir qu'on ne peut pas retourner au paradis terrestre. Et qu'on est obligé d'entrer au noviciat. Mais c'est effrayant. Le noviciat remplace le paradis terrestre. Quelle chose! Alors on en a vite soupé. Il remplace le paradis terrestre. Et c'est vrai. C'est le noviciat qui remplace le paradis terrestre. C'est notre petit paradis terrestre. Mais c'est un paradis terrestre qui fait que tu devras travailler à la sueur de ton front. Tandis que dans le paradis terrestre, il y avait la cueillette. C'est plus agréable. On cueillait un fruit le matin, on mangeait. T'es tranquille pour toute la matinée. On retournait à midi prendre un fruit, on le mangeait. Et le soir également. Un autre problème très délicat et également très important est celui des rapports entre la mesure et la quantité. Et je touche les deux grands problèmes de la quantité. L'infini et la mesure. Ça se tient. Hein? Saint Thomas insiste souvent sur le fait que la mesure se dit proprement de la quantité. En effet, on a mesure ce par quoi la quantité de la réalité est connue. Mais quand vous mesurez un tonneau, rempli de vin. Pour savoir il y a combien dedans, vous le mesurez. Avec 1 litre. Si vous pouvez mesurer la mer comme ça, ce que saint Augustin dit, le petit gosse qui veut mesurer la mer avec un coquillage, il prend un petit coquillage, il la ramène. Et la mer ne diminue pas. Petit coquillage. Mesurer. La quantité, pour être connue, demande d'être mesurée. Ce par quoi la quantité de la réalité est connue. La mesure fait connaître en déterminant, en divisant. N'est-ce pas précisément à cause de cela que la quantité est dite mesure de la substance? Ah, ça, c'est l'expression de saint Thomas, qui est quelquefois très difficile à bien connaître. Dicitur quantitas et o quades mensura substantiae. Saint Thomas dit ça dans le De Ente Essentia, dans son commentaire à l'éthique à Nicomaque, dans son commentaire à Métaphysique dans le De Potentia. Donc c'est une notion que saint Thomas accroche. La quantité, c'est la mesure de la substance. Essayez de penser ça. La quantité est la mesure de la substance. Pas commode à piller. Qu'est-ce que ça veut dire? Par la quantité, la substance est mesurable. Donc elle est la mesure. Parce que c'est par elle que la substance est mesurable. Donc elle est la mesure de la quantité, de la substance. Vous ne pouvez mesurer la substance que par la quantité. Quand vous dites cet individu, il pèse 110 kilos. Est-ce que vous avez le droit de dire que cet individu pèse 110 kilos? Pierre, il pèse 110 kilos. C'est invraisemblable. Pierre, il pèse 110 kilos. Est-ce que Pierre peut être mesuré par 110 kilos? Mais non, c'est par sa quantité. Si vous parliez d'une façon tout à fait correcte, vous devriez dire Pierre a une quantité telle que sa quantité est de 110 kilos. Et vous dites Pierre, il pèse 110 kilos. Comme si vous pouviez mesurer Pierre, qui est une personne. C'est comme, vous savez, quand au Canada, on vous présente les gens, c'était la première expérience que j'ai eue du Canada, à Montréal, on me dit, celui-là, il vaut tant. Celui-là, il vaut tant. Celui-là, il vaut tant. Il vaut tant. On mesure les personnes par ce qu'ils gagnent. Il vaut tant. Oui, la quantité est la mesure de la substance. Pierre, il pèse 110 kilos. C'est pour ça qu'on peut le montrer. Et il ne passe jamais inaperçu. Quand vous pesez 110 kilos, c'est difficile de passer par le trou d'une aiguille. Donc vous passez toujours, vous êtes aperçu, vous apparaissez. La quantité est la mesure de la substance. Mais n'oublions pas que, mis à part le commentaire des physiques et celui des métaphysiques, c'est en théologien que saint Thomas traite de la quantité. La quantité l'intéresse en tant que théologien, en ce qu'elle l'aide à pénétrer dans le mystère de l'infini de Dieu. La raison de fini et d'infini, pour nous, est liée en premier lieu à la quantité. Dans le mystère de l'individualité de la nature humaine du Christ, et tout spécialement dans le mystère de l'Eucharistie. Voilà trois domaines théologiques où saint Thomas s'est affronté à la quantité. L'infini de Dieu, l'individualité de la nature humaine du Christ et le mystère de l'Eucharistie. Dans le sacrement de l'Eucharistie, les espèces du pain et du vin ont la quantité comme support sujet. La quantité tient lieu compte de substance. La question du nombre des élus et de la grandeur de l'univers intéresse aussi le théologien. On voit donc pourquoi saint Thomas, en théologien, prend un tel intérêt à cette étude de la quantité et lui donne une place si importante. Cela dit, l'importance de la quantité chez saint Thomas demeure toujours subordonnée à celle de la substance et de la qualité. La quantité n'est jamais considérée comme un absolu, si ce n'est pour celui qui ne s'élève pas au-delà de l'imaginaire. Pour l'imagination, l'infini quantitatif est l'absolu. Vous voyez, ce domaine est très intéressant dans un domaine. C'est une manière très intéressante d'aborder saint Thomas, le problème de la quantité. Je vous dis tout le problème du conditionnement. Alors, je dis un petit mot sur Don Scott, étant donné que Don Scott est le premier qui affirme que le premier attribut de Dieu est l'infini. Donc, Don Scott va considérer que l'infini est quelque chose d'extrêmement important. Il serait intéressant de voir comment, dans la doctrine de Don Scott, la quantité va prendre une place encore plus importante. Don Scott souligne très fortement la priorité de la quantité sur les autres accidents, dans leur rapport à la substance. Voyez, le premier dans l'ordre génétique, c'est la quantité. Et le premier dans l'ordre génétique deviendra le premier dans l'ordre naturel. Et je crois que c'est une manière d'aborder la théologie de Don Scott qui est si difficile. Don Scott, c'est le docteur très subtil. Saint Thomas, c'est le docteur commun. Et Don Scott, c'est le docteur très subtil. Don Scott est franciscain. Alors c'est dominicain, franciscain, Saint Thomas et Don Scott. On a laissé la subtilité aux franciscains. La quantité va prendre une place encore beaucoup plus importante. Le docteur subtil, qui définit la quantité comme une disposition inhérente à la substance, selon laquelle les parties de la substance sont distantes entre elles et extérieures les unes aux autres, pense sauvegarder l'intention d'Aristote en transposant dans le domaine de la quantité, la distinction de la relation réelle et de la relation de raison, en affirmant que la quantité discrète est une quantité de raison, puisqu'elle implique la mesure et que celle-ci ne peut se concevoir sans l'acte d'intelligence. Vous voyez comme c'est curieux. Il y a une quantité de raison, et c'est le nombre. C'est la quantité discrète. Je vous lis ce passage. Je crois que c'est très très important ça. Si on veut comprendre un peu. Vous comprenez qu'à partir de là, les mathématiques deviennent nécessaires à entrer dans la pensée métaphysique. Comme, c'est de Don Scott ça. Comme la relation est double. L'une réelle, l'autre de raison. Ainsi, la quantité est double. L'une réelle, qui continue hors de l'esprit. L'autre de raison, qui est discrète dans l'esprit. Que l'esprit mesure par quelque chose de lui. Per aliquid sui. Et à laquelle l'esprit peut imposer un nom qui, en premier lieu, signifiera cette quantité dans l'esprit. Et peut être attribué dénominativement à la quantité hors de l'esprit. L'esprit peut se servir de cette quantité intellectuelle, l'expression, hein, quantité intelligible. La quantité intelligible, pour saint Thomas, c'est le domaine mathématique. L'esprit peut se servir de cette quantité intellectuelle pour mesurer l'autre hors de l'esprit, comme si elle était tout à fait réelle. Et ainsi, en ce qui concerne l'acte de mensuration, elle est aussi efficace ou plus efficace que si elle existait hors de l'esprit. Et grâce à elle, ce qui est hors de l'esprit, réellement, peut mesurer et être mesuré. C'est très très curieux. Ce sera intéressant de discuter ça parce que je crois que c'est très très important. Est-ce que ce n'est pas par là que l'idéalisme pénètre en théologie? C'est la notion de mesure. Vous savez bien que c'est la notion de mesure qui, chez Descartes, va être la notion principale. La connaissance se ramène à la mensuration. Et ça, ça commande tout le positivisme. Tout ce que vous ne pouvez pas mesurer n'existe pas. N'existe que ce que vous pouvez mesurer. Et voyez, c'est Don Scott. D'autre part, Don Scott distingue la quantité dimensive et la quantité perfective. La quantité est double. L'une est dimensive et l'autre est perfective. Seule la première quantité est dans le genre quantité, car la seconde est en tout genre et en toute forme ayant des degrés. C'est de cette manière que la quantité se trouve dans la pesanteur et la légèreté, la vitesse et autres semblables. Qui, comparées les unes aux autres, ont la raison de quantité en tant qu'elles s'excluent mutuellement dans le degré de toute forme. Donc la quantité pénètre tous les prédicaments. La quantité perfective, c'est le premier prédicament. Donc, par là, tout est mesurable. Dont Scott en conclut, il est évident que la raison de mesure convient essentiellement et en premier lieu, per se primo, à la quantité discrète et principalement à l'un, qui est principe du nombre et de la quantité discrète. Mais elle ne convient pas essentiellement et en premier lieu à toute autre quantité. Qu'il s'agisse de la quantité de dimension ou de la quantité de perfection, en quelque genre que ce soit. Donc la mesure est liée à la quantité, et la connaissance est liée à la mesure. Donc vous n'arrivez plus à distinguer le conditionnement de l'intelligence et l'objet de l'intelligence. Ça, c'est dans Scott. Très, très curieux. Oui. Ah, Don Scott a une très grosse influence parce que Occam s'oppose à Don Scott et en s'opposant à Don Scott, il avale Don Scott. Vous voyez, celui qui est anti a toujours un lien. Alors, c'est ça qui va être ce qu'on va lire. Vous devancez. Si la ratio de mesure convient à la quantité, et même est due en premier lieu à la quantité, parce que c'est elle qui est domina mensurarum, voilà ce que c'est que la quantité. Ce n'est cependant pas la mesure qui constitue la raison propre de la quantité, mais plutôt la divisibilité. Donc là, il reste aristotélicien. Dont Scott reconnaît cependant, concedo, qui concède, que la divisibilité n'est pas de l'essence de la quantité, mais sa première passion. La divisibilité se fonde sur la quantité et exprime un rapport à la division. Et tout ce qui implique une divisibilité en partie de même raison, l'implique en raison de la quantité. Notons enfin que pour Don Scott, le concept d'être infini est le concept le plus parfait et le plus simple que nous puissions former. Vous voyez bien? Tout est là, hein. Je vous dis, toute la pensée moderne, elle est là. Les modernes n'ont rien inventé, c'est les théologiens qui ont inventé. Parce qu'une fois que vous avez ça, vous avez Descartes, vous avez tous les modernes, vous avez toute la dialectique de Kant, de Hegel. Et vous avez tout l'aspect de l'ontologisme, de droite ou de gauche. Ici. Et vous avez le primat de la négation par l'infini. Notons que pour Don Scott, le concept d'être infini est le concept le plus parfait, le plus simple que nous puissions former. Pour lui, comme plus tard pour Suarez, l'être se divise en fini et infini, avant de se diviser en les dix genres et en actes puissants. N'est-ce pas là le signe du rôle primordial que joue la quantité dans sa pensée, sans peut-être que lui-même en ait pleinement conscience, je crois. Voyez, pour Suarez, donc Suarez le père de toute la scolastique thomiste, hein, le père de toute la scolastique thomiste, même de Maritain. Très très curieux, parce que Maritain reste scolastique. Eh bien, pour Suarez, l'être, le concept d'être, Et le concept d'être infini, c'est le concept le plus parfait. Suarez dit que la métaphysique commence par le concept d'être. Alors ça explique, vous voyez, la rage de Heidegger contre la métaphysique. Si la métaphysique commence par le concept d'être, la métaphysique n'atteindra jamais le réel. Elle n'atteindra jamais l'être. Parce que le concept d'être n'est pas l'être.